France Culture.
L'assassinat d'une surveillante de 31 ans par un élève de 14 ans mardi dernier à Nogent met une fois de plus au premier plan le regain des violences à l'école. Certains acteurs estiment que la réponse est d'abord sécuritaire, alors que d'autres considèrent que l'attention doit être portée sur la santé mentale des jeunes grâce notamment à la formation des personnels, au repérage des signaux faibles et à la multiplication des médecins scolaires. Alors, quelles sont les solutions adaptées pour lutter contre ces violences en milieu scolaire ? Faut-il miser plutôt sur la sécurisation ou sur la prévention? Pour en discuter, trois invités ce soir. Sylvain Berrios, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député indépendant apparenté Horizon. Avec nous également Catherine Navbekti, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Vous avez rejoint Radio France après une épopée difficile, me semble-t-il. Vous êtes secrétaire général de la CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique. Avec nous à distance, Johanna Dagorne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et chercheuse à l'Observatoire international de la violence à l'école. Vous avez travaillé sur une mission ministérielle en charge de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
Comme tant de Français, on ne se résout pas à ce que ces lieux de vie deviennent parfois des lieux d'ensauvagement, des lieux de mort.
C'est-à-dire que l'école, elle seule, ne peut rien faire. Nous avons besoin pour cela qu'une société soit en veille.
Nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires.
Sérieusement, on a un sujet de santé mentale. N'oublions pas que l'une des expressions de ce mal-être, c'est par exemple le nombre de tentatives de suicide chez les plus jeunes.
Moi, je souhaite qu'on puisse pouvoir organiser régulièrement des fouilles de sacs à l'entrée des établissements.
On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
On aimerait passer plus de temps pour prendre en charge ces jeunes-là, mais on n'a pas non plus suffisamment de temps pour faire autant d'éducation à la santé qu'on le souhaiterait. Oui, on a souvent l'impression de courir après le temps et de gérer souvent plus de l'urgence que de la prévention.
Je commencerai avec vous, Catherine Navbekti. Au-delà de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ce drame triste et terrible à la fois, de ce meurtre de cette surveillante de 31 ans, est-ce que l'on observe plus largement au sein de l'enceinte scolaire une hausse des violences effectives ?
Alors pour commencer, je voudrais de nouveau rendre hommage à ma collègue Mélanie Grapinet qui a été tuée par un élève la semaine dernière. Et ce meurtre a ébranlé l'ensemble de la communauté éducative, évidemment à Nogent, mais partout ailleurs. Dans mon organisation syndicale, on a été alerté par plusieurs assistants, assistantes d'éducation et CPE aussi, qui du coup a été quand même beaucoup plus angoissés encore sur leurs conditions de travail. Il y a ces derniers mois, le recours à des couteaux, des tirs aussi de mortiers d'artifice, parfois aux abords d'établissements scolaires. Mais tout ne se déroule pas dans l'enceinte scolaire nécessairement. C'est aussi beaucoup aux abords et en termes d'usage d'armes blanches par des mineurs. Il y a eu des vagues de rixes aussi. On peut penser à des rixes dans l'Essonne, par exemple, ces dernières années. Et aux abords d'établissements scolaires au sein de la capitale aussi. Donc nous, syndicalement, on n'a pas forcément un retour de nos équipes nous disant c'est une explosion des violences permanentes. Mais depuis le Covid, beaucoup de collègues nous disent, quel que soit leur métier, qu'ils perçoivent que des élèves, en plus grand nombre qu'auparavant, sont fragiles en termes de rapport aux autres, de rapport à la collectivité. Et on n'a pas vraiment tiré, en fait, un bilan du Covid du point de vue des jeunes.
On pense évidemment, Sylvain Berrios, à cet autre fait divers dramatique, encore une fois, qui s'est déroulé à Nantes le 24 avril dernier. Un jeune élève a assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau une autre élève. C'était, je l'ai dit, le 24 avril. François Bayrou a estimé que le drame de Nogent, quant à lui, n'était pas seulement un fait isolé, mais une dérive de société. Votre point de vue, quel est-il ?
Ce qui vient d'être indiqué est intéressant là. Tout ne se passe pas dans l'école. L'école est le lieu de sociabilisation. C'est l'endroit où les élèves à un certain âge, enfin très jeunes jusqu'à assez tard parfois, vont avoir leur premier rapport avec les autres, leur première confrontation aussi. Et c'est autour de ce lieu de sociabilisation que les choses se font. Mais c'est pas tant dans l'école que les enfants viennent à l'école, ils viennent à l'école avec dans leur sac à dos un bagage, si je puis m'exprimer ainsi, culturel, un bagage de violence qui s'est inscrit dans un temps relativement long. Et je ne crois pas qu'on puisse dissocier tous ces cas. Il n'y a pas le cas, hélas, ou heureusement, je ne sais pas bien comment le dire, parce que le drame est tel que... Mais il n'y a pas le cas de Mélanie, le cas de Nantes, le cas de Paris, il y a quelques mois, à la sortie d'un entraînement de foot de ce jeune qui a été également assassiné avec un couteau. Il y a, dans une génération, me semble-t-il, un phénomène de culture violente qui existe.
Pour vous, c'est une culture violente qui est propre à cette génération des 12, 13, 14, 15 ans d'aujourd'hui ?
Il faut s'interroger sur l'hypothèse d'un fait générationnel. Vous savez, vous avez parmi les 15-24 ans, vous avez 93% des 15-24 ans qui ont déjà joué à GTA. GTA, c'est un jeu vidéo.
Qui est extrêmement violent, par ailleurs. Qui consiste globalement à tuer des gens dans la rue.
Ouais, c'est un peu plus, c'est plus que ça.
C'est quand même beaucoup ça.
C'est plus que ça. C'est une ville, et dans la ville, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez. Absolument ce que vous voulez. Avec des armes qui sont procurées dans le jeu. Et je pense que cette culture de violence va marquer de façon assez durablement une génération. Alors je dis pas que tous les jeunes de cette génération vont passer à l'acte, mais il y a une forme de déterminisme comme ça qui va se créer. Il faut être extrêmement attentif. Et on peut pas isoler les actes les uns des autres. Enfin, je crois pas.
Vous avez tout de suite centré le sujet sur les jeux vidéo. C'est un sujet important. On va y revenir. Johanna Dagorn, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec l'idée qu'il y a un fait générationnel, une culture de violence propre à cette génération des 12, 15, 20 ans?
Non, je ne suis absolument pas d'accord. Il suffit de regarder ce magnifique chef-d'œuvre de La Guerre des Boutons pour voir le niveau de violence. Sur la question des chiffres, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit, quand il y a des morts, il y a un drame. Donc c'est quand même très compliqué hein, de pouvoir en parler après. Mais de manière globale, les chiffres de la violence et chez les jeunes diminuent. Par contre, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a davantage de violences paroxystiques et puis la question des médias qui fait qu'elle est davantage portée à la connaissance de tous et toutes. Donc, de manière globale, en plus, on n'est pas sur une question générationnelle. Par contre, ce qu'il y a de commun, c'est la question à la fois du sexe des auteurs, sur la question de la masculinité toxique, sur la question des violences retournées contre autrui. On sait très bien que les filles ont davantage de violences retournées contre elles-mêmes, avec des questions d'hospitalisation pour des mutilations importantes, et que les garçons ont davantage tendance à exprimer les choses par l'agressivité.
Johanna Dagorn, je me permets de vous couper, vous êtes à distance. Lorsque vous dites que la violence diminue, qu'est-ce qui permet de le mesurer? Sur quelles statistiques vous fondez-vous?
Sur les dernières statistiques concernant les faits sur les mineurs qui ont diminué de 4% l'année dernière. Par contre, en effet, les violences dites paroxystiques, elles, ont augmenté. Et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on est davantage sur des mesures liées à la prévention situationnelle. Une prévention situationnelle qui est censée rendre plus difficile l'acte, elle fonctionne lorsque la violence est exogène. C'est-à-dire, je mets une alarme pour éviter un cambriolage ou alors limiter les risques de cambriolage, ça fonctionne. Or, les violences à l'école et ou autour de l'école, comme ça a été dit précédemment, elles sont perpétrées pour plus de 90% par les élèves, par les jeunes de l'établissement scolaire. Donc la question de la prévention, elle doit d'abord être humaine. Ça a été dit, redit, et il faut davantage mettre la question sur la formation, sur les signaux faibles. Un élève, lorsqu'il a un repli sur soi, lorsqu'il est en décrochage, qu'il a de l'anxiété, une irritabilité soudaine, bien ce sont les signaux faibles de maltraitance aussi intrafamiliale, de harcèlement à l'école, et également un élève qui est donc en danger et donc aussi potentiellement dangereux.
Alors Catherine Navbekti, justement, c'est ce que ce film-là, La guerre des boutons, on rappelle que ce film est sorti en 1962, c'était le film d'Yves Robert. Est-ce qu'il nous permet justement de prendre un peu de recul, d'expliquer que cette génération-là des 15-20 ans n'est peut-être pas plus violente que les précédentes?
Alors oui, moi je suis d'accord avec ce qu'a exposé Johanna Dagorn, et je pense souvent à ce film, mais aussi par exemple au film L'Effronté. Qui montre que ces questions de violence juvénile ont existé par le passé dans notre pays. Donc je nous invite, et je dis nous, le monde des adultes, parce que c'est nous, le monde des adultes, qui avons la responsabilité d'aider nos jeunes à grandir, à être attentifs aux signaux d'alarme et aussi à ne pas englober. Plutôt que les jeunes, ce sont des jeunes. Il y a des jeunes, effectivement, qui vont mal en termes de santé mentale. Il y a des jeunes qui passent à l'acte, et à l'acte violent, à la fois contre autrui, ça a été dit par Johanna Dagorn, mais nous on est aussi alertés par les violences, et elle l'a évoqué, de jeunes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et certes, là aussi, le nombre de suicides chez les 15-24 ans a considérablement diminué depuis 1985. Mais quand on lit les publications sur le site consacré à la stratégie nationale de prévention du suicide ou à l'Observatoire national des suicides, on a des alertes sur une augmentation des gestes suicidaires et des pensées suicidaires très fortes et très significatives depuis 2020. Et par rapport à ce que disait aussi Johanna Dagorn, nous à la CFDT, on est favorable à ce qu'on mène une politique pour permettre aux adultes qui encadrent les jeunes d'être plus attentifs aux jeunes. Et donc il faut des humains pour être attentif à d'autres humains, et il faut qu'on s'intéresse aux conditions de travail. Or, la problématique, c'est que les enseignants, on leur a demandé d'assumer des programmes d'enseignement de plus en plus chargés. Donc chacun court après le temps dans son heure de cours. On leur demande de faire de plus en plus d'heures supplémentaires. Donc ils ont encore moins le temps que par le passé de faire synthèse collectivement entre professionnels et de se dire « Est-ce que tu as remarqué que tel élève, ça n'a pas l'air d'aller bien fort aujourd'hui ? Oui, moi je suis intervenue aussi, je lui ai demandé de ses nouvelles. » Ce temps-là, on ne l'a plus. On ne l'a plus dans les établissements scolaires et ça bloque la détection et le relais à des professionnels dont on manque aussi à l'éducation nationale. Si on a le temps de se pencher un petit peu sur les chiffres du nombre de médecins scolaires et d'infirmières scolaires, par exemple, on voit qu'on est très loin du compte.
On reviendra évidemment sur ce sujet de la médecine scolaire au sens large, hein, qui entoure et emporte beaucoup de professionnels. Je voudrais vous faire entendre d'abord la voix de Denis Devalois. Il est procureur de la République de Chaumont et dressait le portrait de l'accusé qui a assassiné cette surveillante de 31 ans la semaine dernière.
Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Il est adepte de jeux vidéo violents, sans pour autant être addict à ces jeux, selon ses propres termes et selon les déclarations de ses parents. Il utilise peu les réseaux sociaux. D'une manière générale, ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, à laquelle il ne semble pas attacher une importance particulière.
Comment est-ce que vous analysez, Sylvain Berreux, justement, la description de cet accusé ? On comprend qu'il jouait aux jeux vidéo sans en être addict, on comprend qu'il n'était pas non plus un fanatique des réseaux sociaux, et dans le même temps, on comprend qu'il a peut-être un trouble, j'allais dire, psychologique, lié en tout cas à la santé mentale, dans la valeur qu'il donnait à la vie humaine. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça signifie qu'en fait, chacun va essayer d'aller dans son silo. Est-ce que c'est une fragilité? Est-ce que c'est une réponse pénale? Bon, moi, je pense qu'il y a une complexité d'une situation qui mérite de conjuguer plusieurs choses. Ce que dit le procureur, il dit, est-ce que le jeune a été exposé à de la violence dans les jeux vidéo au cinéma ou dans sa culture, celle qui s'est forgée? Et la réponse est oui. Ensuite, il nous dit il y a une perte de repère. C'est-à-dire que l'autorité et les règles, il en avait perdu la conscience. Alors là, se pose la question de savoir où est-ce qu'il a perdu la conscience de ses règles d'autorité. À l'école, chez lui, les deux ensemble. Et comment est-ce qu'on l'a pas vu, sachant que je vous rappelle que le jeune avait été référent pour le harcèlement. C'est-à-dire qu'il était référent de quelque chose qui finalement devait être une règle, mais qui n'était pas vraiment parce que ça ne relevait pas non plus d'une règle d'autorité. Donc vous avez une perte de repères des règles d'autorité, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de règles, il y a l'exposition à une violence qui entraîne in fine un acte absolument dramatique et qui nous questionne tous. Alors je veux bien entendre que c'est pas un fait générationnel, peut-être que le mot est mal choisi, mais nous avons une génération qui n'est pas celle de la génération de la guerre des boutons. La guerre des boutons, dans la guerre des boutons et dans le livre, la référence à l'autorité est toujours très claire. Dès le premier bouton, en réalité, où on avait peur, parce que à la maison même, on se serait fait taper sur les doigts. La question de l'autorité et de la règle est même fondamentale dans la guerre des boutons. Elle est fondamentale. Même si la violence, et c'est vrai, dans une cour d'école et dans une cour d'école de collège, a, j'allais dire, toujours existé, en tout cas, existe depuis très longtemps. La cour d'école du collège est probablement la plus violente. Mais on doit se poser ce que c'est. Oui, le procureur a dit que le jeune était exposé culturellement à de la violence, ce qui est vrai, que l'autorité n'était pas là, que la règle, il n'en avait pas conscience. La somme de tout ça crée un drame. Et on peut considérer aujourd'hui que nous avons des jeunes qui sont exposés exactement comme le jeune Quentin. Ça fait pas deux des personnes qui vont assassiner dès demain, mais ça crée une situation.
Ce n'était pas le jeune Quentin, néanmoins.
Pardon.
Johanna Dagorn, est-ce que vous êtes d'accord avec cette question? C'est quelque chose qu'on lit beaucoup, c'est vrai, cette question de l'autorité. On explique beaucoup que l'étiolement, l'effritement contemporain de l'autorité qui s'accélérerait, produirait de la violence, une situation plus permissive, en tout cas, favoriserait cette violence.
Ce qui est sûr, c'est que toutes les enquêtes qu'on a pu mener à l'Observatoire, également en lien avec le Campbell Crime, hein, donc les enquêtes nationales et internationales, disent une chose. Elles sont toutes d'accord, que ce soit celle de Janos, de Saleté, ou même la dernière de 2025 de Duarte et Carvalho, montrent qu'il y a un lien très important entre la question de la justice scolaire, c'est-à-dire l'axe, l'un des plus importants axes du climat scolaire, la justice scolaire, et la baisse des violences.
Qu'est-ce que c'est que la justice scolaire, pardonnez-moi ?
La justice scolaire, c'est le fait de mettre une cohérence dans les punitions, les sanctions, la notation. Et quand les élèves, les jeunes, le voient comme quelque chose d'injuste, à ce moment-là, ça donne en effet des colères, des violences anti-scolaire, comme il a été dit précédemment. Donc il faut donner. Il n'y a pas une recherche, que ce soit celle de Janos, celle de Debarbieu, qui montre qu'il nous faut des évaluations encourageantes et pas de la coercition, de manière à pouvoir faire diminuer toutes les violences et améliorer le climat scolaire. Si on punit pour punir, on est actuellement dans une surenchère lexicale et une stigmatisation des auteurs avec la question des portiques, des vidéosurveillances, une prévention situationnelle qui ne va faire qu'augmenter en effet les rancœurs, la colère, les injustices et donc par conséquent va engendrer un manque d'autorité institutionnelle évidemment, mais également des violences. Il me semble aussi important de dire qu'aussi quelque chose, c'est que on est sur la question dans la surenchère d'essayer de venger les victimes. Est-ce que ce serait pas plus intéressant plutôt d'essayer avec de la prévention d'éviter qu'il y en ait, dans la mesure où il n'y a pas une recherche qui montre le contraire?
Je voudrais vous interroger, Catherine Neufbecki, justement sur cette notion de justice scolaire. Elle est assez différente, en réalité, de la notion d'autorité. Est-ce que vous-même vous observez dans les établissements, ou est-ce que vous avez des remontées à ce sujet sur le fait que la justice scolaire serait peut-être moins efficace, moins effective qu'elle ne pouvait l'être auparavant ?
Alors, je pense que là, derrière la question de la justice scolaire que soulève Johanna Dagorn, en fait, il ne faut pas l'aborder uniquement sous l'angle de que font les adultes de tel établissement ou comment c'est perçu par les élèves ou par des élèves. Mais il y a une réflexion à conduire dans notre pays sur des formes de violence institutionnelle. La question de la violence institutionnelle, c'est quelque chose qui s'analyse philosophiquement, sociologiquement depuis longtemps. Ceci étant, je voudrais dire aussi, et par rapport aux deux interventions, d'une certaine manière, que là, on est parti dans votre émission d'un cas paroxystique, le meurtre d'une assistante d'éducation par un élève. On a fait référence au meurtre d'une élève par un lycéen à Nantes. On peut penser au meurtre aussi de notre collègue dans un établissement privé à Saint-Jean-de-Luz. Sur des cas comme ceux-ci, il faut les analyser en tant que tels. Je pense qu'on n'est pas au bout des enquêtes judiciaires sur ce qui a abouti au passage à l'acte d'un élève, y compris dans des familles où il n'y a pas forcément de lâcher prise sur l'autorité parentale et où il y a des éléments pour l'un d'entre eux qui montrent une radicalisation, y compris sur des idéologies qui prônent l'autorité, voire l'autoritarisme. Donc je pense que sur ces questions-là, il faut aussi qu'on accepte le temps de la justice et de l'enquête judiciaire avant de nous prononcer, nous qui n'avons pas accès à l'ensemble du dossier, sur ce qui a conduit à des faits d'une si grande gravité. Et je pense aussi que sur la question de la justice scolaire, qui est une question à laquelle nous, nos adhérents sont prêts à réfléchir, sans tabou, je ne suis pas certaine que ça suffise à empêcher des violences aussi dures. Il y a la violence scolaire, mais sous des formes différentes, avec des degrés différents. Donc, travailler sur la justice scolaire, le climat scolaire, peut être un moyen d'éviter que des élèves aient le sentiment d'être victimes d'injustice, ne comprennent pas l'ordre scolaire, ne l'acceptent pas et génèrent du trouble dans les établissements scolaires, voire remettent en cause l'autorité des personnels éducatifs, mais sans passer à l'acte violent et au meurtre. Je pense que ces deux sujets-là ne sont pas tout à fait du même niveau, à mon sens. Et ensuite, pour travailler la justice scolaire, je vais y revenir, il faudrait encore qu'on ait des politiques éducatives cohérentes. Ce qu'on demande aux enseignants, d'être attentifs au harcèlement, d'être attentifs aux signes mineurs de dégradation de santé mentale, mais nous n'en avons pas les moyens et de moins en moins la disponibilité d'esprit.
Sylvain Berrios, parmi les mesures qui ont été avancées, notamment par l'exécutif à la suite du drame de la semaine dernière, l'idée de disposer devant les établissements scolaires des portiques pour tenter justement de détecter des armes blanches notamment, puisque la surveillante de 31 ans a été assassinée à coups de couteau. Est-ce que vous estimez que cette solution des portiques, puisqu'elle est présentée comme telle, pourrait être efficace et nous permettre d'avancer dans ce domaine ?
Encore une fois, c'est un sujet d'une grande complexité. Je voudrais revenir, sans allonger le débat outre mesure de ce côté-là, mais parler de violence institutionnelle qui conduirait à des drames de cette nature me paraît vraiment pas juste. Je pense au contraire exactement l'inverse. On a une jeunesse qui a besoin de repères, et les repères participent aussi d'un classement, d'une notation. Ce n'est pas parce que on va donner la même note à tout le monde qu'on va finir par atténuer une violence qui est une violence, encore une fois, de la société, une violence culturelle. Et c'est ça le vrai sujet que nous avons à traiter. Les portiques. Est-ce qu'on doit mettre des portiques ? Est-ce qu'on doit fouiller des sacs ? Ce sont des premières réponses parce qu'on peut pas amener à l'école des armes. Ok. Mais une fois qu'on a fait ça, je ne pense pas qu'on a tout résolu. Les réponses, encore une fois...
Personne n'a dit ça, mais est-ce que c'est crédible de mettre des portiques ? Est-ce que c'est possible, j'allais dire, au vu du coût, au vu aussi de la nécessité, la difficulté logistique à sa mise en œuvre ? Est-ce que c'est quelque chose...
Vous posez la question, vous voyez bien que vous avez déjà réponse en posant la question. Vous avez dû avoir 7000 établissements, peut-être plus, à équiper. Vous savez très bien qu'au mois de septembre, il n'y aura pas des portiques partout. Donc tout ça, et je vous rappelle encore une fois que le drame qui a eu lieu à un moment où on a fouillé des sacs, où il y a des gendarmes, où c'était un jeune qui était un bon élève, qui était référent au harcèlement. Donc, encore une fois, bien sûr qu'il y a des mesures à prendre pour éviter qu'on ait des armes qui rentrent. Bien sûr qu'on doit pouvoir fouiller de façon les sacs. Ok. Mais une fois qu'on a fait ça, je ne crois pas qu'on ait répondu à la crise d'autorité, à la crise de règles et à la crise de la violence qu'il y a dans une... Alors, encore une fois, peut-être pas une génération, mais en tout cas, où nos enfants sont exposés à cette violence. Et c'est à ça qu'on doit répondre. La réponse pénale est aussi une des réponses. Et je pense, et nous pensons, nous, qu'il faut avoir une réponse pénale extrêmement tôt pour qu'elle soit la plus courte possible, y compris avec des réponses pénales, d'ailleurs, qui pourraient être des éloignements dans des centres éducatifs, qui est une réponse pénale possible. Nous avons déposé une loi pour ça. Nous espérons qu'elle sera adoptée au Sénat. De la même façon que sur les écrans moins de 15 ans, ce qu'a proposé le président de la République, eh bien, c'est une proposition de Laurent Marcangeli. On attend juste que les décrets soient mis en place. Enfin, il y a beaucoup de choses que nous avons proposées au groupe Horizon Indépendant, et nous sommes prêts. Mais il n'y a pas une seule réponse, en fait. Il y a une complexité d'une situation, et les portiques ne vont probablement pas résoudre une question qui est aussi une question, et vous l'avez évoqué, de souffrance d'une partie de notre jeunesse, peut-être beaucoup plus large qu'on l'imagine. Certainement beaucoup plus large qu'on l'imagine.
Je suis bien d'accord pour dire qu'il n'existe pas une seule solution, mais l'idée justement de cette émission, c'était notamment de les passer en revue. Joanna Dagorne, vous souhaitiez réagir?
Oui, plusieurs choses. Oui, en effet, hein, je me suis mal exprimée concernant les équipes éducatives qui font de leur mieux. Et la question de la justice scolaire, elle est aussi en lien avec ce qu'on voit les politiques, les médias, concernant la stigmatisation des éventuels auteurs de violences. Je voulais également rebondir sur la question du cadre. Quand on demande aux élèves d'effectuer le règlement intérieur avec les échelles de punition, eh bien, on est obligé, in fine, d'adoucir les règles tellement ils sont beaucoup plus sévères. Donc, ce n'est pas une question d'autorité ni de demande de cadre. La question, c'est plutôt de la justice, ou pour reprendre Habermas, de la justesse dans les notations et les punitions. Et vous parliez tout à l'heure des contrats éducatifs fermés. Eh bien, la dernière enquête de Brun et de Choquet, hein, sur les contrats éducatifs fermés, durant 5 ans, donc ils ont pris une étude longitudinale, montre qu'il y a 70% de réitération de récidive. On sait très bien que la question de l'enfermement, de la coercition, et là je suis juste uniquement sur le volet pragmatique, ça ne marche pas, c'est contre-productif. La question qui me semble fondamentale à poser, c'est la question de l'éducabilité, la capacité à être éduqué. Et là, c'est ça qu'on doit mettre, à mon sens, et j'en veux également pour preuve toutes les recherches nationales et internationales, au cœur des questions de violence à l'école et de bien-être des jeunes. Parce qu'en fait, on parle de la question de la violence que en termes de tranquillité publique, et non pas de bien-être de notre jeunesse.
Je reste encore une fois un instant sur cette dimension sécuritaire, on élargira ensuite, Catherine Navbekti, mais est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée justement qui vient d'être exprimée, que la dimension sécuritaire, quand on parle de portique, quand on parle de fouille, cela peut être concrètement sur le terrain, dans les établissements, pour les personnels, quelque chose de contre-productif? Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que, un, les portiques, c'est pas opérationnel. En l'occurrence, le couteau utilisé par le jeune homme n'aurait pas été détecté par le portique, manifestement, compte tenu du matériau dans lequel il était fabriqué. Et on sait maintenant qu'il l'avait pris dans la cuisine de ses parents. Donc l'idée d'interdire la vente de couteaux aux mineurs de moins de 15 ans n'aurait pas permis d'empêcher ce drame. Quant à la fouille des sacs, alors d'une part, elle n'est pas effectuée par des personnels de l'Éducation nationale. Elle est effectuée par des membres des forces de l'ordre.
Là, c'était des gendarmes, en l'occurrence, qui étaient en charge.
Mais il faut avoir en tête que quand la journée démarre comme ça, ça veut dire qu'en fait, elle démarre beaucoup plus tard. Parce que fouiller les sacs de tous les élèves qui arrivent dans un établissement scolaire, ça veut dire qu'au bas mot, au moins la première heure de cours ne peut pas se tenir. Les élèves entrent au compte-gouttes. Et il faut donc ensuite des adultes pour prendre en charge des bouts de classe, élève par élève. Et puis, il y a la question des attroupements sur la rue. Si, par exemple, on repasse à un niveau plus fort de Vigipirate, autant dire que ce ne sera pas possible, dans beaucoup d'endroits, de conserver autant d'élèves en attroupement à l'entrée d'un établissement scolaire. Par ailleurs, pour avoir vécu professionnellement d'autres situations où, en l'occurrence, ça n'était pas le lycée dans lequel j'enseignais, mais le quartier dans lequel vivaient la plupart de mes élèves était nassé par les forces de l'ordre, tôt le matin, et il était impossible de sortir du quartier sans être contrôlé par les forces de l'ordre. En l'occurrence, cette journée au lycée avait été extrêmement dure parce que nos élèves étaient très nerveux dès le début de la journée et inquiets de ce qui continuait à se passer dans leur quartier. Donc là, on a une question qui est celle de, effectivement, comment on accueille dans un établissement scolaire, comment l'établissement scolaire reste bien un lieu d'enseignement et d'éducation. Moi, je reprends volontiers la question d'éducabilité dans mon organisation syndicale, dans nos statuts. Une des valeurs, c'est la conviction en l'éducabilité de toutes et tous. Et puis, j'ajouterais que dans notre pays, si on a construit une justice des mineurs, c'est bien aussi parce qu'on considère qu'un mineur, même ayant commis les crimes les plus sordides, doit être éduqué, doit être réhabilité après avoir purgé une peine, et que c'est aussi un enfant en danger. C'est les deux. Ces deux dimensions-là doivent être préservées. Et par rapport à la réactivité de la justice et les sanctions, moi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps Éric Dupond-Moretti dire sur une autre antenne du groupe Radio France à quel point il regrettait de ne pas avoir réussi à convaincre le monde politique que la justice était réactive et que les sanctions prononcées étaient encore plus lourdes. Et nous, on a pris la tâche, par exemple, du parquet de Bobigny. Un de nos militants a pris la tâche du parquet de Bobigny, qui confirme à la fois une baisse de la délinquance des mineurs, mais une augmentation récente de faits violents extrêmement graves et de sanctions qui sont extrêmement sévères, prononcées par la justice.
Je voudrais qu'on parle de médecine scolaire pour aborder le sujet plus large de la santé mentale des élèves. Quelques chiffres que tous les rapports récents mettent en lumière, et notamment celui de la Cour des comptes, que je cite. Dans l'éducation nationale, on compte un infirmier pour 1600 élèves, un psychologue pour 1500, un assistant ou une assistante sociale pour 4000 élèves et un médecin scolaire pour 13 000 élèves. Chez les médecins scolaires, le nombre de postes vacants dépasse par ailleurs les 40%, Sylvain Berrios, quand on connaît les difficultés en matière de santé mentale chez les jeunes élèves, notamment depuis la période du Covid. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Comment est-ce que les personnels de l'éducation nationale peuvent les accompagner justement et efficacement au vu de ces chiffres?
Ça, la question de la médecine scolaire, elle n'est pas née aujourd'hui. Hein. C'est une longue dégringolade qui, au cours des, on va dire, des 20 dernières années, c'est une dégringolade manifeste à la fois de médecins, d'infirmiers et les psychologues ou la psychiatrie, d'ailleurs, sont aux abonnés absents. Donc là, c'est vraiment le trou dans la raquette. Yannick Noether a lancé un plan.
Ministre de la Santé,
récemment, il y a 3-4 jours, qui est un commencement. Je pense que cette prise de conscience est réelle au gouvernement. Elle est réelle pour chacun d'entre nous, parce que c'est pas uniquement pour la violence. Hein, c'est les jeunes aujourd'hui dans leur vie sociale n'ont pas d'oreille médicale de quelque niveau que ce soit. Pour s'exprimer. Et c'est 1 pour 1200 en ce qui concerne les médecins, mais c'est dans un établissement, c'est-à-dire c'est rien. La vérité, c'est que c'est rien. Et donc là, c'est vraiment le trou dans la raquette. On peut pas dire les choses autrement. Il va y avoir beaucoup de travail pour réussir à rattraper un retard, une dégringolade des 20 dernières années. Une dégringolade.
Joanna Dagorn, alors que toutes les études en matière de santé mentale montrent justement que cette santé se dégrade chez les jeunes, en particulier depuis 2021, que faire de ce point de vue-là? Est-ce que justement il faut trouver le moyen de rendre à nouveau ces professions attractives? On sait que de moins en moins de personnes se présentent aussi pour j'allais dire, réarmer cette médecine scolaire.
J'ai presque envie de vous dire que c'est la question des métiers du care qui sont sous-payés. Donc, augmenter les salaires, il y aura beaucoup plus de personnes qui se porteront volontaires. C'est systémique. Hein.
Vous êtes d'accord avec cette solution, entre guillemets, Catherine Navbekti, c'est d'abord et avant tout une question de salaire plus que de reconnaissance, de statut, de conditions de travail?
Alors, il y a une question salariale qui est majeure pour toutes ces professions. Et là, on a eu récemment des réunions au ministère de l'Éducation nationale pour envisager des mesures, des petites mesures de revalorisation pour des personnels non enseignants, mais pas ceux de la santé scolaire et de la psychologie scolaire. Et par ailleurs, il y a aussi une question de conditions de travail. Mais en fait, la question de conditions de travail, elle est très liée au manque de personnel. C'est-à-dire que nous, nos adhérentes, je vais le dire au féminin parce que ce sont ultra majoritairement des femmes, nos adhérentes médecins scolaires et infirmières scolaires disent que leur travail n'a plus de sens. Quand il y a un médecin scolaire pour un département, elles ont l'impression de faire du travail sur dossier, de ne jamais vraiment rencontrer des élèves, avoir d'entretien avec des élèves. Et par ailleurs, donc vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de nos collègues sont contraintes de se déplacer d'un établissement à un autre. On a tout de suite, là maintenant, un gros problème dans notre pays, c'est que de plus en plus tôt dans l'année scolaire, on demande à ces personnels de ne plus se déplacer, puisqu'on n'a plus les moyens de leur rembourser leurs frais de déplacement. Voilà. Donc on est vraiment à l'os et il faudrait effectivement y consacrer des moyens. Mais ni dans le plan de M. Neuder, ni dans la conclusion des assises de la santé scolaire par Elisabeth Borne mi-mai, il n'y a de moyens budgétaires. Et donc on a un vrai sujet avec, effectivement, je suis d'accord avec Johanna Dagorn sur les métiers du care. Notre pays ne sait pas reconnaître l'importance de ces métiers où on prend soin des autres.
Un discours que l'on entend beaucoup également, Sylvain Berriot, c'est le fait qu'il faut responsabiliser les familles, demander plus aux familles. C'est à elles aussi de prendre en charge, effectivement, l'accompagnement de leur enfant. Que demander ? Qu'est-ce que l'État peut demander concrètement à une famille, aux familles en général ? Quel discours porter à leur intention ?
On a parlé tout à l'heure de l'autorité et de la règle, et de cette conscience, cet apprentissage de l'autorité et de la règle. Et je pense qu'elle est commune à l'école et aux parents. Vous savez, il y a quelques années, on a expliqué, et c'était la première fois que le gouvernement l'exprimait avec autant de force, que l'école devait arracher à tout déterminisme social. Et peu à peu, on a vu l'école avoir un travail sans les parents, où les parents envoyaient leurs enfants à l'école en considérant que l'école allait faire le chemin éducatif à leur place. Je pense qu'on doit s'interroger sur le lien entre la famille et l'école et avoir une corrélation très très forte entre la famille et l'école. Et là, pour le coup, l'établissement social joue à plein parce que les familles les plus aisées, celles qui sont les plus instruites, ont cette faculté à accompagner d'ailleurs dans l'école ou à l'extérieur. Et les plus fragiles, en revanche, ne l'ont pas. Et il faut s'interroger à ce phénomène et on doit veiller à ce que les familles soient bien arrimées à l'idéal républicain qu'est l'éducation. Et ça vaut également pour la santé. Parce que aujourd'hui, on a une séparation stricte de la santé scolaire et de la santé par ailleurs familiale. La question peut être posée d'avoir une fusion, en tout cas une accroche entre la santé des familles, de la famille, et la santé à l'école. Ça peut être une source de solution non négligeable.
Johanna Dagorn, une réaction. Qu'est-ce que l'État peut demander aux familles s'il le peut?
Justement, dans les 7 axes du climat scolaire, il y a la question de la coéducation. Et dans un système où alors, moi je parlais plutôt d'illusion républicaine concernant l'école, pour citer Pierre Bourdieu, avec la question de Parcoursup, on est dans un système de plus en plus compétitif. Le système scolaire actuel est plutôt en train de trier l'élite plutôt qu'à réduire les inégalités sociales et scolaires, on le voit bien. Donc demander aux parents les plus éloignés de ce système qui les éloigne d'année en année de faire un effort, me semble au mieux illusoire, au pire culpabilisant.
Catherine Neuf-Becti, votre position sur ce point?
Alors nous, à la CFDT, on considère effectivement que la coéducation et faire alliance éducative avec les parents, c'est important, mais on le fait en croyant en leur conviction à eux, qu'ils veulent éduquer leurs enfants dans la bonne direction, et c'est le cas de quasiment tous les parents. Et par ailleurs, dans les deux cas, Nantes et Nogent, je ne crois pas que ces familles étaient des familles démissionnaires pour ce qu'on en sait à ce stade. Et pour avoir rencontré aussi des parents d'élèves, y compris d'élèves qui n'avaient pas respecté à un moment donné une autorité adulte, ça n'est pas parce que les parents les ont mal éduqués. Moi, un jour, j'ai reçu un parent d'élève qui m'a dit « Je suis désolée, il est mal élevé ». J'ai répondu à ce père « Non, vous avez bien élevé votre fils ». La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ce jour-là, à cette heure-là, il a manqué de respect à une enseignante? Et comment on fait en sorte qu'il ne le refasse plus? Donc, les parents ont à cœur de bien éduquer leurs enfants. Reste qu'ils ont peu de temps à y consacrer. Un parent d'élève qui travaille n'obtiendra jamais de son employeur une autorisation de s'absenter pour se rendre à une réunion par un professeur, par exemple. C'est une vraie question dans notre société si on pense que l'éducation est prioritaire.
Un sujet très très large. Merci à tous les trois de l'avoir abordé sous des prismes divers et complémentaires. Johanna Dagorn, vous êtes sociologue et chercheuse à l'Observatoire international de la violence à l'école. Catherine Navbekti, secrétaire générale de la CFDT Éducation, Formation, Recherche publique. Et Sylvain Berrios, député indépendant apparenté Horizon. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Question du soir.